Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Oui, c'est quatrième élection législative en Irak depuis la fin de la guerre, les premières depuis la fin de celle contre l'État islamique, en tout cas celle qu'avait décrété l'ancien Premier ministre, le Premier ministre toujours Haïder El-Abadi, et un résultat inédit, quel lapsus, c'est la victoire des partis d'opposition qu'on dit indépendants, et a priori la défaite de ce Premier ministre El-Abadi. Bonjour Adel Bakawan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Vous êtes sociologue, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales HESS, entre autres. Alors là, c'était 24,5 millions d'électeurs, 87 partis pour élire 329 députés du Parlement irakien. 4 scrutins jusqu'ici, je le disais. Selon les résultats encore provisoires, il faut le dire, le Premier ministre Haïder El-Abadi n'a donc pas profité de sa victoire contre l'État islamique. Il n'a pas eu de validation des électeurs. Il reste quand même 1 700 000 bulletins à dépouiller, mais c'est déjà un résultat inédit à un moment crucial pour le pays, bien sûr, en pleine reconstruction, avec un enjeu sécuritaire permanent et qui court toujours le risque de décomposition sous l'effet des tensions entre ces trois communautés principales, chiites, sunnites et kurdes. Alors cette fois, avec deux partis chiites, donc indépendants en tête, le résultat tranche, hein, avec 13 années de domination au Parlement d'une coalition chiite conservatrice de l'Alliance irakienne unifiée, accusée de corruption, d'autoritarisme. C'est un bouleversement national, on va en reparler, mais aussi international, puisque cette coalition était soutenue par la plupart des pays, à l'exception de l'Iran. L'Iran qui, lui, ne confirme qu'en partie, hein, Adel Bakawan, son influence sur la scène politique, on va en dire un mot aussi. En tout cas, scrutin à enjeux multiples, mais avec une donnée majeure, la volonté de changement des électeurs, et avec aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler peut-être un Irak anti-système qui se profile. Est-ce qu'on peut aller jusque-là avec la victoire de ces deux partis chiites relativement indépendants?
Bah écoutez, malheureusement dans les médias, souvent on ne voit qu'une seule phase de la gouvernance de Haïder El-Abadi de 2014 à 2018, à savoir la victoire contre l'organisation de l'État islamique fin 2017, mais aussi l'échec du référendum sur l'indépendance du Kurdistan. L'insertion ou la réinsertion relative de l'Irak dans le système des pays régionaux, mais aussi dans le système international, tout ça c'est vrai, hein, ce sont des données factuelles. Mais on ne voit pas l'autre phase cachée de la gouvernance de M. Abadi, à savoir entre 2014 et 2018, nous avons eu en Irak 68 000 civils tués, je dis bien civils, pas militaires, 68 000 civils tués pendant sa gouvernance. Vous avez à ce jour-là, dans la capitale irakienne, Bagdad, 45% des habitants qui n'ont pas accès à l'eau potable. Par exemple, dans la province la plus riche de l'Irak, Bassoura, lorsque la température arrive à 53 ou 54
mais alors,
degrés,
mais alors,
vous n'avez que 3 heures d'électricité par jour.
Si je vous suis bien, Adel Bakawan, pardonnez-moi de vous interrompre, mais ça va un peu dans le sens de ce que vous dites. De ce point de vue-là, les électeurs n'ont pas validé la politique d'Haïder El-Abadi, qui s'est présenté effectivement comme le vainqueur de cette guerre contre l'État islamique, mais qui, sans doute pendant ce temps-là, a négligé, disons, tout ce qui est la question du développement, les réfugiés et le traitement des minorités.
Absolument. Et là, vous avez deux indicateurs. Le premier, c'est le taux de participation. Vous avez moins 50% de participation, globalement 43%. Donc ça, c'est déjà un échec, hein, pour cette politique, ce gouvernement, ce Premier ministre. Deuxième indicateur, c'est le vote. Le vote accordé aux forces qui sont plutôt comptées comme les Irakiens de l'Iran. Hein. Aujourd'hui, les enjeux principaux de ces élections ne sont plus entre les Arabes et les Kurdes, les chiites et les sunnites, mais ils se trouvent à l'intérieur de la famille chiite, de la maison chiite. À ce jour-là, vous avez deux tendances. La tendance, ce que j'appelle les nationalistes irakiens, représentés par Abadi et Sadr, qui sont au gouvernement, mais la deuxième tendance, les Irakiens de l'Iran, qui sont représentés par Maliki et Amri. Bien évidemment, cette grande victoire. Enfin, il faut relativiser encore parce qu'on n'a pas encore le résultat, les résultats définitifs de cette tendance pro-iranienne qui voit dans la République islamique de l'Iran, surtout dans Ayatollah Khamenei, non pas uniquement un soutien politique, mais aussi une référence religieuse à qui on se réfère religieusement. Bien évidemment, c'est un échec évident de cette période de gouvernance du Premier ministre.
Bon, vous avez répondu à ma première question. Échec pas seulement de El Abadi, mais de cette coalition, effectivement, Alliance irakienne unifiée. Et deuxièmement, alors, ces deux partis qu'on dit indépendants, qui sont intéressants. Le premier, c'est celui de Moqtada al-Sadr, l'ancien qui s'était battu, il faut le dire, contre les Américains en 2003. Aujourd'hui, qui a fondé son parti ou sa coalition qui s'appelle Sa-Irun, qui veut dire En Marche, j'ai bien lu les articles. Et puis le deuxième parti qui est issu de cette milice Ashtal Shaabi, qui est soutenue par l'Iran. À quel point est-ce qu'il faut y voir l'influence iranienne dans la victoire de ces deux partis? Victoire a priori encore.
Alors, personnellement, je ne vois pas une influence visible, évidente, une évidence d'influence iranienne dans le vote de l'électorat, dans des électeurs. Non, l'influence iranienne sera beaucoup plus évidente au moment où on forme le gouvernement. C'est-à-dire, c'est une influence post-électoral. Au moment où les électeurs votent, l'Iran n'a pas une influence directe. Mais par contre, le risque majeur, l'hypothèse, avec mon groupe de recherche sur l'Irak, depuis plusieurs semaines, on travaille sur plusieurs hypothèses et nous avons retenu deux hypothèses majeures. La première, c'est vraiment la confrontation militaire entre ces deux tendances, entre la tendance nationaliste représentée par Sadr, qui est bien évidemment une force politique, mais une force politique lourdement armée. Je répète encore, lourdement armée, qui a des milices, mais aussi Hadi Amri, les organisations qui se sont regroupées dans Hashd Shaabi, dans Hashd Shaabi, eux aussi, ils sont lourdement armés. Alors, quel est le risque, le degré de risque d'une confrontation militaire? Écoutez, depuis hier soir, il y a des avertissements des deux côtés. Surtout du côté de Hadi Amri, qui pense que des forces extérieures peuvent intervenir pour modifier les résultats électroniques et pirater ce système électronique. Pirater, ce sont ces mots, pirater ce système électronique en avantage du Premier ministre irakien au pouvoir depuis 2014. Donc, alors si c'est ça le cas, il n'exclut pas une intervention militaire, une confrontation militaire avec à la fois le Premier ministre, mais aussi
Donc une confrontation entre ces deux milices vainqueurs et qui se sont transformées en partis politiques, une plutôt du côté iranien et l'autre plutôt nationaliste, Moqtada al-Sadr, c'est ce que vous craignez?
Absolument, absolument. Et on a déjà un précédent. En 1992, il y a eu des élections au Kurdistan irakien, mais quelques semaines plus tard, ces élections ont débouché sur une guerre civile qui a duré 4 ans et qui a malheureusement engendré 4 000 victimes entre le PDK et l'UPK au Kurdistan irakien.
Et il faut pourtant dire un mot juste très rapide de cette milice menée, de cette coalition plutôt menée par Moqtada al-Sadr, puisqu'il s'est allié avec le parti communiste. Il y a donc une base sociologique qui est forte. Est-ce que vraiment il va vouloir casser ce travail qu'il a entrepris justement de départisanisation ou laïcisation plutôt de son parti au prix d'une guerre avec la milice al-Shaabi?
Souvent, une guerre civile ne dépend pas d'une décision dans un bureau fermé ou une stratégie ou une politique. Une guerre civile s'impose aux acteurs dans les rapports de force. Vous avez un contexte, malheureusement, objectivement favorable à une confrontation militaire. De 2011 à 2018, la société irakienne, surtout avec la montée en puissance de l'organisation d'État islamique, à, de l'autre côté, c'est-à-dire à l'autre côté de la frontière, dans le territoire des chiites, la société irakienne s'est militarisée. La militarisation de la société irakienne a préparé ses conditions objectives, mais aussi, bien évidemment, la systématisation de la corruption. La systématisation de la corruption, ce sont les deux éléments qui ont préparé les conditions objectives d'une confrontation militaire. Et je répète bien encore, c'est une hypothèse, c'est pas une évidence.
Et on a entendu votre hypothèse pour aujourd'hui. Il faudra attendre de toute façon le dépouillement complet de ces bulletins. Encore 1 700 000 bulletins, dont celui des militaires et des Irakiens de l'étranger. En tout cas, pour aujourd'hui, merci beaucoup pour ces explications préventives, on va dire. Merci à Adel Bakawan, chercheur associé à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Je vous donne rendez-vous à demain pour les suites compliquées d'une autre élection en Italie, peut-être coalition Mouvement 5 étoiles et droite dure à voir.